jour que je flânais dans un magasin où on ne vendait que des horloges, j'ai vu écrit sur l'une d'entre elles « Vulnerant omne ultima necat », du latin qui veut dire « toute blesse, la dernière tue ». Voilà une petite phrase qui a de quoi faire réfléchir, car il s'agit, bien sûr, des secondes, des minutes et des heures qui inlassablement s'égrènent une à une. Puis, sur une autre horloge, était écrit une autre parole encore plus inquiétante. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Oula, je me suis dit, il faut que je sorte d'ici. À cette époque, j'ignorais qu'il avait proféré cette menace, mais maintenant je sais que c'est le prophète Amos. Je continue de lire dans le chapitre 4 de son livre. « C'est pourquoi, Israël, voici comment j'agirai avec toi. Et puisque je vais agir contre toi, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. » Dans le contexte de la prophétie d'Amos, « Prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu » sont des paroles qui devraient glacer le sang des Israélites parce qu'elles annoncent le jugement final du royaume des tribus du Nord. Cependant, « Prépare-toi » est aussi une dernière main tendue au peuple d'Israël, une exhortation à se repentir afin d'obtenir grâce. Mais le royaume est tellement endurci qu'un revirement national salutaire est désormais impossible, sinon peut-être pour quelques membres épars ici et là. L'avertissement d'Amos est donc un « prépare-toi à rencontrer le salaire de ton impénitence ». Au final, Dieu ne se laisse pas duper par un étalage de religion, et il ne continue pas non plus à donner indéfiniment des avertissements. Le caractère terrible de ce passage et son imprécision, et aucune autre menace n'est formulée. Les châtiments passés provisoires ne sont rien comparés à la rencontre avec Dieu lui-même. Chacun d'entre nous est individuellement exhorté à se préparer à rencontrer son Créateur avant que la dernière heure, celle qui tue, s'égrène. Car il faut se rappeler qu'à ce rendez-vous, ma présence n'est pas simplement souhaitée comme si j'étais invité à un gala, mais elle est requise et exigée. Or, si je devais me tenir seul devant Dieu, je serais terrorisé. Mais ce n'est pas ce qui va se passer, parce que j'ai trouvé refuge auprès de Jésus-Christ à l'ombre de la croix. Et c'est donc lui qui, dans sa justice parfaite, se présentera devant Dieu en mon nom. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Jésus a été livré pour nos fautes, et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. » Les paroles « C'est pourquoi Israël, voici comment j'agirai avec toi » renvoient au chapitre précédent où Amos a déjà précisé comment Dieu allait agir envers le royaume des 10 tribus. Je rappelle ce passage. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, dit ceci. Un ennemi viendra tout autour du pays. Il abattra ta force et tes palais seront pillés. Car le jour où j'interviendrai pour punir Israël de ses crimes nombreux, j'interviendrai contre les autels de Bethel. Leurs cornes seront abattues et tomberont à terre. Je ferai s'écrouler ses maisons pour l'hiver, ses maisons pour l'été, et ses maisons ornées d'ivoire seront anéanties. Ses nombreuses maisons vont toutes disparaître, l'Éternel le déclare. À cause de la révolte permanente du royaume des 10 tribus contre l'Éternel, le jugement ne peut être évité. Dieu va commanditer les Assyriens qui envahiront le pays, assiégeront Samarie, sa capitale, la prendront, la détruiront, massacreront ses habitants et emmèneront la quasi-totalité du peuple en captivité. ce qui mettra une fin définitive à la nation d'Israël Nord. Je finis maintenant de lire le chapitre 4 du livre d'Amos. Car voici celui qui a forgé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Car attention, c'est lui qui a fait les montagnes, qui a créé le vent, c'est lui qui fait connaître à l'homme sa pensée, lui qui des ténèbres fait naître l'aube, lui qui marche sur les sommets, les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, Dieu des armées célestes. Amos ouvre ici une parenthèse qui rappelle la toute-puissance de Dieu, son omniscience, mais qu'il connaît tout d'avance, et son omniprésence, car il est partout en même temps. Dans le psaume 139, qui est un magnifique poème, le roi David écrit « Où irai-je, loin de ton esprit ? Et où fuirai-je, loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'allais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Trois fois dans le livre, et parlant de Dieu, Amos utilise l'expression « Son nom est l'Éternel » pour souligner qu'il est le Créateur, le Tout-Puissant, que c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui existe, aussi bien des montagnes que du vent. Les premières sont ce qu'il y a de plus solide et de plus durable, tandis que le second est de l'air en mouvement, ce qu'il y a de plus subtil et de plus immatériel. Ces paroles du prophète ont pour but de rappeler aux Israélites que rien ni personne ne peut empêcher l'Éternel d'exécuter ce qu'il a résolu selon le conseil de sa seule volonté. Il s'ensuit qu'il est évidemment tout à fait impossible d'échapper au jugement à venir. Non seulement on ne peut pas fuir devant l'Éternel, mais il nous connaît de fond en comble. Dans le psaume 90, écrit par Moïse, ce dernier prononce des paroles qui font froid dans le dos quand il dit « Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce qui est caché. » Or, un péché secret sur terre est un scandale public au ciel. Il est donc tout à fait inutile d'essayer de donner le change, et il vaut beaucoup mieux aller à Dieu et lui avouer toutes nos fautes afin d'obtenir grâce. Amos termine le chapitre 4 sur une note grave, car il semble que le sort d'Israël Nord est désormais irrémédiablement fixé, définitivement arrêté et le jugement inévitable. Tout espoir est perdu et la nation sera détruite. Pour confirmer la certitude du châtiment, le prophète va réciter d'avance un chant funéraire. Pourtant, dans un dernier élan de miséricorde, l'Éternel tente une dernière fois d'amener son peuple à se repentir et à revenir à lui. Nous arrivons maintenant au chapitre 5 que je commence à lire. Écoutez bien cette parole que je profère contre vous, cette lamentation sur vous, gens d'Israël. En hébreu, le mot pour lamentation est un terme technique qui désigne un hymne funèbre chanté au moment des funérailles d'un parent, d'un ami ou d'un chef du peuple. Cette forme de poésie est également utilisée pour exprimer sa détresse suite à la destruction d'une ville ou d'une nation. Ici, Amos se lamente sur la fin imminente d'Israël Nord. Pourtant, quand il écrit ces lignes, le royaume des 10 tribus est prospère et, en apparence, rien ne laisse présager la catastrophe à venir. D'autant plus que le roi Jéroboam II a réussi à reprendre tous les territoires que les Syriens avaient précédemment conquis. Et deuxièmement, Jéroboam a réussi à élargir son royaume jusqu'aux frontières qui délimitaient le pays d'Israël sous le règne du puissant roi Salomon. Ceux qui entendent le chant de deuil du prophète doivent être interloqués, aussi choqués que celui qui lit l'annonce de son décès dans les pages nécrologiques du journal. Je continue le texte. Elle est tombée et ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle sera détruite dans son propre pays et nul ne la relève. Il n'y a plus d'espoir, et la nation est déjà comme morte, parce qu'elle n'a pas la force intérieure, la force spirituelle et morale de se relever, et aucune aide extérieure pour la relever. La personnification d'Israël sous les traits d'une jeune fille est une expression de tendresse, car ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu châtie son peuple. Pourtant, au moment du jugement, la Vierge d'Israël sera couchée dans la boue et ne se relèvera plus. Sa disparition en tant que nation ne peut plus être évitée et le prophète la voit déjà tombée à terre. Le mot pour tomber décrit généralement la mort au combat par l'épée. Je continue. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur. La ville qui levait un millier de soldats n'en aura plus que 100, et celle qui enlevait 100 n'en aura plus que 10 pour la défendre, Israël. Les forces combattantes d'Israël seront décimées. À cette époque, une armée peut supporter jusqu'à la perte de 50% de ses effectifs et continuer à se battre. Mais quand 90% sont morts, ou fait prisonnier, la défaite est totale, car il n'y a plus suffisamment de soldats valides pour défendre même une ville fortifiée. Je continue. Voici ce que dit l'Éternel au peuple d'Israël. Tournez-vous donc vers moi et vous vivrez. N'allez pas chercher à Bethel, n'allez pas à Gilgal et ne vous rendez pas à Beersheba, car Gilgal sera déporté et Bethel deviendra néant. Même si le jugement du royaume des 10 tribus est irrévocable, en tant qu'individu, les Israélites peuvent encore trouver le salut en se tournant vers l'Éternel, c'est-à-dire en abandonnant leurs pratiques idolâtres et en obéissant aux prescriptions morales de la loi. La ville de Beersheba se trouve à environ 80 km au sud-ouest de Jérusalem. À l'extrême sud du royaume de Juda, et au beurre du désert du Négev. C'est là qu'eut lieu une sombre histoire entre Abraham et Abimélec, roi des Philistins, qui fit enlever sa femme Sarah. Mais au final, ces deux hommes se réconcilient et font alliance. C'est aussi à cet endroit qu'Abraham invoque l'Éternel, à Beersheba, et Beersheba devient un lieu d'adoration du Dieu unique est vrai au temps des patriarches. Tout comme Bethel et Gilgal également, mais au 8e siècle avant notre ère, les Israélites superstitieux s'adonnent à un syncrétisme religieux car ils se rendent dans ces localités afin de célébrer un culte aussi bien à l'Éternel qu'aux idoles. Il est tout à fait curieux de constater que même les Israélites du Nord vont en pèlerinage à Beersheba au fin fond du royaume du Sud, sans doute pour assister à certaines fêtes religieuses, mais probablement pour assister aux 3 solennités obligatoires, prescrites par la loi de Moïse, Pâques, Pentecôte, les cabanes, car elles ne peuvent être célébrées qu'à Jérusalem. Dans l'Ancien Testament, l'expression « dedans » à Beersheba, désigne la totalité du pays d'Israël du nord au sud. Les trois mots constitués par la phrase « Gilgal sera déporté » font assonance en hébreu. C'est comme si on disait « Paris périra ». C'est à Gilgal que les Israélites établirent leur premier campement pour avoir traversé le Jourdain pour conquérir la terre promise sous la conduite de Josué. C'est aussi à Gilgal qu'ils ont fabriqué le tabernacle. Bethel signifie « maison de Dieu ». Mais en annonçant que cette ville deviendra néant, Amos fait écho au prophète Osée qui appelle Bethel Benavent, qui veut dire « maison du néant ». Aujourd'hui, cette ville a entièrement disparu et on n'est pas sûr de son lieu géographique exact. Rien n'est dit du sort final de Beersheba parce que Amos ne s'intéresse qu'au royaume des 10 tribus. Je continue le texte. Tournez-vous donc vers l'Éternel et vous vivrez autrement. Il fondra tout comme un feu qui les consumera sur les descendants de Joseph sans qu'à Bethel personne ne parvienne à l'atteindre. Les descendants de Joseph est une expression qui désigne le royaume d'Israël Nord dans sa totalité, parce que les tribus d'Éphraïm et de Manassé, les deux fils de Joseph, constituent les tribus principales de la nation. Le feu qui les consumera est une référence au jugement à venir. Dans les Écritures, l'Éternel est parfois appelé un feu dévorant ou qui consume. Il semble aussi que le prophète Jérémie, qui parle aux Israélites du Sud, se soit inspiré des paroles d'Amos quand il leur dit « Purifiez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, ô hommes de Juda, habitants de Jérusalem, car sinon ma colère jaillira comme un feu, elle brûlera sans que nul ne l'atteigne à cause de la perfidie de vos agissements. » De toute évidence, pour ce qui est le mal à faire, les Israélites du Sud emboîtent le pas de leurs frères du Nord, et cela même après avoir vu de leurs yeux la destruction totale du royaume des 10 tribus. C'est bien la preuve que l'homme a de nature le diable au corps. Il ne peut pas s'empêcher de violer les ordonnances divines. L'impératif « Tournez-vous donc vers l'Éternel » ne veut pas dire lui rendre un culte, mais de se conformer à tous les préceptes de la loi de Moïse, tant moraux que religieux. Ceux qui obéiront à cette exhortation auront la vie sauve quand les Assyriens envahiront le pays et détruiront la nation d'Israël Nord. Je continue. Vous changez le droit en poison et vous jetez par terre la justice. Le droit est ce qui régit les relations entre les êtres humains. Un proverbe dit « Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel, plus que s'il lui offrait des sacrifices. » Une justice équitable est essentielle au bon fonctionnement d'une société afin de protéger les plus faibles et les démunis des loups et des requins. Mais en Israël, l'avidité des puissants et des riches a transformé le pays en une jungle où la loi du plus fort est toujours la meilleure. L'une des raisons du jugement de Dieu d'Israël Nord est justement l'absence de justice dans les tribunaux, au lieu d'offrir guérison et réparation. Les magistrats du royaume prononcent des jugements empoisonnés. Or, Dieu attend de son peuple, qu'il soit du nord ou du sud, qu'il se conforme aux prescriptions de la loi de Moïse. Le prophète Ésaïe écrit « La nation d'Israël est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Ils attendaient d'eux la droiture, et il n'est qu'injustice. » Il attendait d'eux la justice, et ce sont des cris de détresse. Je continue le texte. L'Éternel a créé Orion et les Pléiades. Il transforme en aurore les profondes ténèbres et il réduit le jour en une nuit obscure. Il appelle les eaux de la mer pour les répandre sur la surface de la terre. L'Éternel est son nom. C'est lui qui fait venir la ruine sur les gens puissants et sur la forteresse. Amos fait une digression avant de poursuivre son plaidoyer contre la perversité des Israélites du Nord. Cette parenthèse a pour but d'établir une fois encore la toute-puissance de l'Éternel pour bien montrer que tous ceux qui se sont rendus coupables de crimes n'échapperont pas au châtiment. Le mot pour Pléiade est littéralement le monceau. C'est un groupe d'étoiles qui fait partie de la constellation du Taureau et qui comprend 7 astres relativement proches les uns des autres. Quant à Orion, c'est l'une des plus belles constellations de notre hémisphère. Le mot pour Orion est littéralement le fou ou le rebelle. Parce que, assez curieusement, cette constellation tire son nom de Nimrod, un arrière-petit-fils de Noé, et une personne ou un personnage violent qui n'apparaît que dans l'Ancien Testament. Dans la table des nations du chapitre 10 du livre de la Genèse, on lit « Couch eut aussi pour fils Nimrod, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. Il semblerait que Nimrod fut le premier roi de la plus ancienne dynastie mésopotamienne, établie tout de suite après le déluge. Elle compte 23 monarques qui prennent tous le titre de roi du monde. Rien que ça. Le nom Nimrod est associé à plusieurs villes de Mésopotamie, en Irak. Bir Nimrud, Tel Nimrud, près de Bagdad, et Mont Nimrud. De plus, l'art babylonien et assyrien nous a laissé de nombreuses scènes de chasse, montrant qu'un Nimrod est bien le grand chasseur dont parle la Genèse. L'Orion et les Pléiades sont mentionnés ensemble 2 fois dans le livre de Job. Ce sont les constellations qui président au changement de saison en Palestine. La montée des Pléiades à l'Orion avant l'aube signale l'arrivée du printemps et la montée de l'Orion après le coucher du soleil annonce la venue de l'hiver. La mention de ces constellations par le prophète Amos est tout à fait naturel de la part de quelqu'un qui mène une vie pastorale, qui s'occupe de troupeaux et de sycomores, car il est souvent dehors tôt le matin et rentre tard le soir. Cependant, Amos ne parle pas de l'Orion et des Pléiades pour faire état de ses connaissances. Il veut plutôt rappeler à ceux qui adore les astres et les éléments naturels, que les mouvements cosmiques sont régis par l'Éternel, le Dieu créateur de l'univers. C'est lui qui contrôle le cycle du jour et de la nuit, la succession des saisons, ainsi que la transformation de l'eau des mers en vapeur qui devient des nuages et qui arrose la végétation sur la terre. Quant à Amos dit, c'est l'Éternel qui fait venir la ruine sur les gens puissants et sur la forteresse. Il désigne Samarie, la capitale d'Israël Nord, qui est extrêmement bien fortifiée au point où il a fallu 3 ans aux envahisseurs assyriens pour en venir à bout. Il faut dire aussi qu'il n'avait rien à faire sinon d'attendre jusqu'à ce que la ville tombe comme un fruit mûr dans leur besace du fait de la famine qui régnait à l'intérieur de ces murs. Quand Dieu décide de juger une personne ou une nation, même si elle est puissante, pour lui, c'est bien sûr un jeu d'enfant. Que ce soit sur les forces de la nature ou sur l'histoire du monde, c'est toujours Dieu qui a le dernier mot.